Le billet économique.
Bonjour Annabelle Grolier.
Bonjour Guillaume.
On a parlé cette semaine de gros salaires des patrons. Qu'en est-il des patronnes? Il faudrait déjà qu'elles soient nommées, me direz-vous. À l'heure de la parité, les grandes entreprises cherchent des femmes pour siéger dans les conseils d'administration. Et en France, il y a désormais des quotas à respecter.
Et oui, et il faut bien en passer par là, Guillaume, car si on laisse faire le mouvement naturel, le monde des grands patrons resterait clairement un club privé réservé aux hommes. Tant et si bien qu'à l'approche donc de la saison des assemblées générales, les grandes entreprises redoublent d'efforts pour trouver des administratrices. Une loi adoptée en 2011 oblige en effet les entreprises de 500 salariés et plus, dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 50 millions d'euros, à avoir à l'issue des assemblées générales de 2017 au minimum 40% de femmes au sein de leur conseil d'administration, sous peine de voir annuler toutes les nouvelles nominations masculines et de voir suspendus les jetons de présence. Le code de bonne gouvernance de l'AFEP-MEDEF imposait ce quota dès 2016 et il a déjà fallu repousser la date limite. Alors qu'est-ce qui bloque ? Eh bien, on ne change pas comme ça du jour au lendemain de vieilles habitudes, Guillaume. Et comme l'explique la secrétaire générale supérieure de l'égalité professionnelle, Brigitte Grézy, les clichés ont la vie dure. C'est toujours pareil, quand on parle d'égalité, on se dit « mais où va-t-on trouver les femmes ?» Elles sont souvent moins au fait des évolutions de la gouvernance, nous explique Brigitte Longuet, la présidente de la Fédération des femmes administrateurs. En clair, elles ne sont pas dans les réseaux. Et oui, les chefs d'entreprise essaient de trouver des personnes qu'ils connaissent déjà et en qui ils ont confiance, ajoute-t-elle. Or, dans des réseaux traditionnellement dominés par les mâles, les femmes ont du mal à trouver leur place. Ce qui explique leur recours, sans doute plus fréquent, à des cabinets de chasseurs de têtes pour se faire connaître. De fait, les administratrices qui entrent dans les conseils d'administration sont vraiment choisies pour leur profil, déclare-t-elle. C'est rassurant, cela voudrait dire que l'on serait obligé de recruter dans les conseils d'administration des personnes compétentes et non plus des copains pour gagner des jetons de présence. Parmi les heureux élus, il y a pas mal de femmes qui ont été directrices financières ou qui viennent du monde du digital. Un atout aujourd'hui alors que les entreprises doivent s'adapter au numérique, remarque-t-on chez les chasseurs de têtes. Clara Guémard, Laurence Boone, Isabelle Courville, cette année, les propositions de nomination aux prochaines assemblées générales concernent une bonne moitié des femmes, soit autant que l'an dernier, indique-t-il. Et l'objectif de 40% semble en passe d'être atteint, du moins parmi les grandes entreprises françaises cotées. Selon une étude de Russell Reynolds Associates, publiée en septembre, les conseils d'administration des entreprises du CAC 40 comptaient en moyenne 35% de femmes en 2015. Et ceux des entreprises du SBF 120, l'indice regroupant les 120 plus grandes cotées en France, en comptaient 32%. Certains groupes figurent déjà parmi les très bons élèves, à l'image de l'énergéticien Engie ou des banques BNP Paribas et Société Générale, avec des taux de 50% ou plus. D'autres sont encore à la traîne, comme Airbus, avec un taux de féminisation de 25%. Il y a en revanche une pénurie de femmes qui ont une expérience de PDG. Et pour cause, il n'existe à ce jour que deux femmes patrons du CAC 40. Et ce sont deux héritières, Sophie Bellon à la tête de Sodexo, qui succède à son fondateur de père, et Elisabeth Badinter, qui préside en effet depuis 1996 le conseil de surveillance de Publicis, fondé également par son père. Pourtant, selon une étude du cabinet d'audit Ernst & Young, on aurait tout intérêt, et économique cette fois, à nommer des femmes chez les grands patrons. Cette étude montre que dans les firmes qui comportent au moins 30% de femmes dans leur corps dirigeant, on observe une augmentation de la marge bénéficiaire nette de 6%. Et peut-être même, Guillaume, et ça c'est moi qui le rajoute, que si on doublait leur salaire, eh bien par décence, elles y renonceraient. On est le 1er avril, hein, j'ai le droit.
Merci beaucoup. Annabelle Grolier, restez avec nous. Nous sommes en direct de Bordeaux. Nous recevrons tout à l'heure à 7h40 Alain Juppé qui évoquera ses idées pour la France et notamment ses idées en matière de culture puisque nous sommes en direct de Bordeaux pour le Forum d'Avignon. Lequel Forum d'Avignon a lieu cette année à Bordeaux? Et puis d'autres choses également à suivre sur l'antenne de France Culture toute la journée. Par exemple, à 15h dans la compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange consacrera son émission d'aujourd'hui à Guillaume Musso. Il recevra Jacques Compagnon, professeur au Collège de France. Jacques Compagnon présentera son dernier livre, un roman à clé présenté comme suit. Musil commence comme Musso, 6h51 sur France Culture.
Les enjeux internationaux.
Avec vous Thierry Garcin, bonjour.
Et bonjour Guillaume Erner, le temps de rappeler le partenariat du Dessous des Cartes avec les enjeux internationaux et réciproquement, consacré demain sur Arte à 19h30 à la Thaïlande. Thaïlande, succès économique, impasse politique. Ceci sans rapport avec cela, on va parler de l'Afghanistan, conflit délaissé ou oublié avec Mariam Abouzab, qui est enseignante à l'INALCO, chercheur, 15 mois après le départ de l'essentiel des troupes américaines. Alors comment fonctionne le régime? Sur quel territoire a-t-il autorité? Les logiques des différents acteurs? La fonction des forces américaines restantes et pourquoi les négociations n'ont-elles pas repris le 5 mars à Islamabad? Pourquoi les talibans ont-ils refusé d'être présents? Leur marge de manœuvre s'est-elle élargie? Mariam Abouzab, chercheure et enseignante à l'INALCO.
Début mars, c'était un délai qui était tout à fait irréaliste et qui était trop rapide. On pouvait bien penser qu'on ne pourrait pas, début mars, commencer les négociations. D'autre part, il y a toujours une bonne partie des talibans qui refusent de négocier directement avec le gouvernement afghan, qui veulent négocier avec les États-Unis et qui veulent seulement démarrer des négociations une fois que toutes les troupes étrangères auront quitté le pays. D'autre part,
ça fait deux prérequis qui sont absolument impossibles à remplir.
Qui, pour le moment, semblent impossibles à remplir. Bon, ceci dit, il y a eu quand même des rencontres dans lesquelles il y avait à la fois les talibans et des représentants du gouvernement afghan. Donc tout ça, c'est aussi des arguments dans la négociation. Et les talibans sont d'autant moins enclins à négocier maintenant qu'ils sont en train de progresser sur le terrain. Et donc, ils sont en position de force. Il n'y a pas eu d'arrêt des combats pendant l'hiver. Beaucoup de combattants qui repartaient au Pakistan pendant l'hiver sont restés dans les provinces afghanes et les combats n'ont pas cessé. Notamment dans la province du Helmand, mais dans le Helmand on peut combattre toute l'année, c'est pas une zone de montagne, ce sont des plaines. Et c'est très important stratégiquement pour les talibans. Donc on comprend très bien qu'ils soient en train de combattre là. L'armée afghane n'a pas du tout réussi à en venir à bout, contrairement à ce que toutes les déclarations des autorités afghanes pourraient faire croire. Et il a donc fallu appeler les militaires américains à la rescousse. Et donc, il y a un appui aérien de la part des États-Unis et il y a aussi, on dit, 700 militaires américains qui ont été redéployés vers le Helmand. Il reste actuellement un peu plus de 13 000 militaires américains en Afghanistan, dont une partie sont censés faire de la formation, du conseil et pas du tout de combattre. Il y a une autre partie qui, là, peut intervenir dans les combats en cas de besoin. Bon, alors avec des interprétations qui sont un peu floues, de savoir à quel moment il est légitime pour eux d'intervenir, mais sans eux et sans la présence des forces spéciales américaines aussi à leur côté, l'armée afghane ne pourrait pas en venir à bout. Il faut quand même savoir que, bon, d'une part, cette armée est inefficace et mal démoralisée et mal armée, mal formée, mais aussi certains sont déployés dans le Helmand depuis 8 ans, vous imaginez, surtout s'ils viennent d'autres régions, à quel point on comprend la fatigue de cette armée afghane qui voit qu'elle n'en viendra pas à bout.
Alors, ce qui est frappant dans tout ce que vous dites, c'est le fractionnement quand même du territoire qui reste une donnée de base de la réalité afghane. Et pour le gouvernement, est-ce qu'on peut en dire un mot là aussi? Un fractionnement du pouvoir?
Alors, il y a toujours un fractionnement du pouvoir. Bien sûr, on est dans une situation qui n'est pas du tout stable puisque les résultats des élections de 2014 n'ont jamais été rendus publics. On a un président, le président Ashraf Ghani, et on a un poste de chef de l'exécutif qui n'existe même pas dans la Constitution, qui est celui de Abdullah. Et deux personnages qui se méfient l'un de l'autre et qui ont des bases de soutien très différentes. Et une grande déception de la population face au président Ashraf Ghani. On a l'impression qu'il n'a pas fait grand-chose pour améliorer la vie quotidienne des Afghans, ce que les Afghans lui reprochent beaucoup, qu'il ne les protège pas et qu'il n'a rien fait pour améliorer l'économie. Malgré de grands discours disant, vous verrez, tout va aller très bien, dans quelques années on aura un pays avec une économie florissante, mais on sait très bien que ce n'est pas du tout le cas.
Alors, il faudrait parler, on n'en a pas le temps, d'un certain nombre de dossiers clés comme les rivalités claniques, le facteur ethnique, les questions confessionnelles. Je vois, il y a 1000 questions à vous poser, mais peut-être au bénéfice, alors, du coup, quelque chose sur lequel vous avez attiré notre attention, c'est l'affaire des exodes des Afghans. Alors, est-ce qu'on a d'ailleurs des chiffres?
Alors, il y a un exode massif qui s'est accéléré considérablement en 2015. On l'a vu en France, notamment avec l'augmentation de la demande d'asile afghane et un changement dans la sociologie de cette demande d'asile. Ce sont de jeunes célibataires et de plus en plus jeunes qui viennent un petit peu en éclaireur en se disant que...
20 ans, 25 ans?
Ah, beaucoup moins. beaucoup moins, des adolescents entre 15 et 20 ans souvent, et vraiment de plus en plus jeunes, et qui viennent de régions rurales de plus en plus reculées. Ce n'est plus du tout le jeune Kabouli d'entre 20 et 25 ans, bon, qui était urbain, qui était tout à fait différent, ou les jeunes Hazara qui avaient été nés en Iran, y avaient vécu et que la famille envoyait vers l'Occident avant de rentrer elle-même en Afghanistan. Donc maintenant, c'est très différent. On vient de partout. Il faut dire que le prix du voyage a aussi considérablement baissé. Donc, c'est devenu abordable pour dans des régions rurales de gens qui n'auraient pas quitté leur pays sinon. Selon les Nations Unies, 150 000 Afghans sont arrivés en Grèce en 2015, ce qui est quand même considérable. Et sur ces 150 000, 65 000 sont allés en Allemagne. Parce que, bon, en Allemagne, c'est la plus grosse communauté afghane de l'Europe. Il y a des liens historiques importants avec l'Allemagne, avec la France. Et parce que les passeurs leur racontaient que s'ils arrivaient en Allemagne, ils étaient sûrs d'avoir la nationalité très vite, qu'ils auraient un emploi, qu'ils auraient un grand appartement et qu'ils auraient des allocations importantes. Alors, l'ambassade d'Allemagne s'est donné énormément de mal pour contrer tout cela, que ce soit avec des affiches dans les rues, que ce soit sur une page Facebook, que ce soit sur Twitter, pour dire ne venez pas, ne croyez pas les passeurs, ils veulent juste s'en prendre à votre argent, mais c'est pas du tout ce qu'on vous raconte. Malgré ça, c'est quand même à peine dissuasif. Alors pourquoi tous ces jeunes partent ? Ils disent, bien sûr, parce qu'ils ont compris ce qu'il faut dire en Occident, que c'est pour des raisons de sécurité, qu'ils ont des problèmes avec les talibans, ou des histoires de vendetta familiale et autres. En fait, quand on les interroge vraiment directement, c'est pas ça. Ils partent tous pour des raisons économiques, parce qu'ils n'ont aucune perspective d'avenir en Afghanistan, parce qu'ils n'ont pas de quoi nourrir leur famille, parce qu'il y a une pression familiale très forte pour partir et rapporter quelque chose, envoyer de l'argent pour nourrir la famille, parce qu'il n'y a pas de travail en Afghanistan, parce que on le savait bien que l'économie afghane, notamment l'économie de Kaboul, était une bulle qui allait se dégonfler avec le départ des troupes de l'OTAN. C'est ce qui s'est passé. Et le président Ashraf Ghani lui-même a dit que avec le départ des Américains, au moins 100 000 emplois dans le secteur des transports avaient été perdus. C'est considérable.
Est-ce que c'est un certain nombre, juste peut-être dernière question, un certain nombre de ces Afghans qui arrivent en Europe repartent ou ont envie de repartir vers l'Afghanistan ?
Alors, beaucoup ont envie de repartir. Et ils ont envie de repartir parce que leur famille leur manque. C'est ce qu'ils disent le plus souvent. Ce ne sont pas les incitations financières. Si on leur donne quelques centaines d'euros et un billet d'avion, ce n'est pas ça qui les incite à repartir. C'est le fait qu'ils viennent d'une société où on vit collectivement et ils se retrouvent dans une société individualisée. Ils ont perdu tous leurs repères. Ils ne savent pas du tout comment vivre dans ces sociétés. Et puis, ils sont tellement déçus par la vie très dure qu'ils avaient, qui n'est pas du tout ce qu'ils imaginaient, leur famille leur manque et ils ont envie de repartir pour cette raison-là. Et ils ne parlent jamais de l'insécurité les concernant personnellement. C'est quelque chose de général. L'insécurité en général en Afghanistan, mais pas d'un point de vue personnel.
Voilà, Maria Mabouza, merci de sa concision et de la chaise de son propos, enseignante et chercheur à l'INALCO. Et puis franceculture.fr pour écouter l'émission. Guillaume, lundi prochain, nous allons poser simplement la question, et si Londres quittait l'Union Européenne, avec notre invité Jean-Claude Piris, franceculture.fr, Guillaume.